19.
LFM, l'invité de Julie Marty.
Oui, il aura commenté 34 éditions d'Eurovision en direct sur la TSR puis la RTS.
Jean-Marc Richard, bonjour.
Mais bonjour.
La première demi-finale de l'Eurovision de la chanson 2026 se tient donc ce soir à Vienne en Autriche. 15 pays sont en compétition pour obtenir l'une des 10 places qualificatives pour la grande finale de samedi. T'as raccroché ton micro de commentateur de l'Eurovision, mais en t'entendant dans l'open space, t'es pas vraiment totalement externe à ce qui se passe.
Je passe ma vie avec mon bouquin en ce moment.
C'est ça. Comment ça se profile alors cette 70e édition ?
Ben, je la vis à travers Nicolas et Victoria qui sont sur place et puis les autres collègues. On a fait les préparations ensemble avec eux parce que bon, c'était une première pour Victoria, pas pour Nicolas, puisque ça fait 15 ans. J'étais très fier hier parce qu'il y avait le quiz des commentateurs et puis ça s'est fait dans la Green Room et c'est la Suisse qui a gagné. Nicolas Tanner a été exceptionnel comme toujours. Donc voilà, je vis ça à travers eux, sans nostalgie, avec une petite inquiétude quand même pour la Suisse parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas aussi mal classé dans les Paris, voilà. Et ça m'inquiète un peu. Ce serait vraiment dommage qu'on passe pas en finale. Donc je vis ça comme ça. Et puis
Pas trop nostalgique d'être de l'extérieur.
Non, c'est très drôle parce que je suis encore dans les différents réseaux européens et tout le monde m'envoie des trucs en me disant quand est-ce que tu vas faire l'interview de telle personne, telle autre personne. Alors je renvoie. Mais c'est très sympa, non ? Ouais, c'est assez agréable de le vivre une fois à distance. Je pourrais pas regarder ce soir, mais je vais être devant ma télévision jeudi.
On va parler quand même de l'Eurovision, qui est évidemment une compétition et qui est une fête aussi pour beaucoup de pays. Mais cette année, il y a quand même quelques turbulences avec ce boycott. Il y a des centaines d'artistes, il y a des pétitions qui ont été lancées contre la participation d'Israël. 5 pays ont déjà claqué la porte. Des anciens gagnants, notamment Nemo, se sont prononcés contre la participation d'Israël. Quel regard est-ce que toi, tu portes là-dessus ?
Bon, je pense que c'est l'année la plus compliquée de l'histoire de l'Eurovision depuis des années. Il y a eu des boycotts par le passé, hein, quand l'Eurovision se faisait dans des dictatures, par exemple. Et c'est très étonnant parce qu'en Espagne, par exemple, c'est les Autrichiens qui avaient boycotté à l'époque. Mais ça, on parle des années 60. Hein. Mais moi, je suis assez inquiet pour l'avenir de l'Eurovision parce que je pense que le départ de l'Espagne, de l'Irlande, qui est quand même le pays qui, avec la Suède, a le plus gagné l'Eurovision, c'est pas anodin. Je pense aussi que l'invitation, elle est envoyée non pas au pays, mais à la télévision. Et qu'il faut savoir que la télévision israélienne n'est pas le béni oui-oui de Netanyahou, pour être clair. C'est-à-dire que c'est une télévision publique, mais qui a un regard assez critique aussi sur le gouvernement. Donc, je peux comprendre qu'on invite la télévision. Après, il faut que la télévision israélienne fasse attention, parce qu'elle a déjà commis quelques bourdes là, à Vienne, avec appelé à voter 10 fois pour la chanson israélienne, alors que ça, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, il y a le problème du vote public. Je pense que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que plusieurs années de suite, le public espagnol et le public suisse donnent 12 points à Israël. Ça, ce n'est pas possible. Techniquement, je ne sais pas comment c'est imaginable de contrôler ça. Donc, il y a tous ces éléments-là qui flottent dans l'air. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, les gens me demandent, est-ce que vous pensez qu'il y a tricherie, pas tricherie ? Non, je ne peux pas dire ça, on ne peut pas dire ça, parce que c'est extrêmement contrôlé. Mais il y a quand même une vraie problématique. Et l'autre vraie problématique, c'est que ça génère énormément de tensions. On l'a vu l'année passée, c'était plutôt serein à Bâle, mais l'année d'avant à Malmö, c'était un cauchemar. Même à l'intérieur du concours, c'était un cauchemar, quoi. Donc, il va falloir qu'ils prennent des décisions assez rapidement, quoi, un jour, de savoir pourquoi, comment, d'avoir une vraie discussion.
Et un impact aussi financier, hein, parce que si l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie participent pas, ça a aussi un impact sur l'Eurovision et son financement.
Ouais, et ces pays, pas tous, mais ne diffusent pas l'Eurovision, vous imaginez. L'Espagne ne diffuse pas l'Eurovision, l'Irlande ne diffuse pas l'Eurovision. On fait des programmes spécifiques qui vont faire beaucoup de concurrence à l'Eurovision. Oui, c'est un vrai problème au niveau financier, au niveau nombre de téléspectatrices et téléspectateurs. Ça a toujours été assez géopolitique quand même, l'Eurovision. Mais là, il y a un vrai problème de fond sur le comportement, je pense.
Parlons de quelque chose un peu plus positif. Véronica Fusaro, qui va représenter la Suisse cette année. La chanteuse bernoise de 29 ans et interprète Alice. Les sondages ne lui sont pas vraiment favorables. Qu'est-ce que toi, t'en penses ?
Ben, je peux comprendre que les sondages ne soient pas vraiment favorables. Je vous ai entendu tout à l'heure, effectivement, est-ce que c'est Eurovision compatible ? Le problème, c'est qu'on ne sait plus ce qui est Eurovision compatible. Parce que quand vous écoutez la chanson de Nemo pour la première fois avant qu'elle passe à l'Eurovision, on a tous dit que ce n'est pas Eurovision compatible. Donc, il a quand même gagné. Donc, on peut s'attendre à une surprise. Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de sa prestation sur scène. Je suis inquiet après les répétitions. J'ai vu une ou deux répétitions. C'était un peu fragile, mais elle est très professionnelle. Et je pense qu'elle, avec son professionnalisme, elle peut apporter quelque chose. Et en plus, dans la deuxième demi-finale, il y a vraiment des choses qui sont bof, alors qu'elle, c'est quelque chose de qualité. Donc, elle aura des votes du jury. Il faut savoir que cette année, pour la première fois, Et avec Nicolas Tanner, ça fait des années qu'on appelle le retour du jury dans les demi-finales. Et on y est, parce qu'il y a la présence d'Israël, puis qu'il fallait trouver un pis-aller pour les qualifications. Et du coup, je pense qu'avec le jury, elle peut faire quelque chose. Et je pense qu'elle pourrait se qualifier, mais ça ne sera pas dans les trois premiers de la demi-finale. Quoi. Et après, en finale, tout est possible. On a vu des chansons. Nemo, par exemple, il n'avait terminé que quatrième de sa demi-finale. Donc ça, il faut le savoir, il n'a pas gagné sa demi-finale. On verra. Mais nous, notre problème, c'est toujours le vote public. Parce qu'on a vu l'année passée, Zoé Aimé a pratiquement gagné le vote du jury. Elle était deuxième. Et puis, il y a zéro point. Mais ça, c'est assez classique. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Anglais en Angleterre avaient fait zéro point. Quand on est dans son propre pays, vous verrez, cette année, il y a des chances que les Autrichiens fassent zéro point. Parce que les gens ne revotent pas. Ils disent, on est déjà allé, c'est bon. Voilà. Et ils ne revotent pas pour... Voilà, c'est ça, c'est un phénomène. Mais, je suis inquiet. Mais je ne suis pas pessimiste. Ce n'est pas dans ma nature.
Tu l'as dit, Jean-Marc, il y a des titres qui sont un peu bof. Ouais. Est-ce que tu as un favori quand même ?
Oui, cette année, il y a un peu de tout. Moi, personnellement, je suis assez sensible à ce que fait la Grèce. Et je pense que vous aimeriez beaucoup, vous aussi.
C'est oui, Evan en parlait, il disait que c'était un titre assez sympa.
Ouais, c'est très sympa. C'est un peu Mario Kart sur scène, un peu dans ce style-là, un petit peu. Moi, j'aime assez. Je trouve très beau la Finlande. Je pense que
c'est la grande favorite.
C'est la grande favorite. Alors, peut-être que je vais faire hurler les gens. Moi, j'aime bien la Suède. C'est très techno, mais j'adore. Donc, voilà. Mais non, mais je pense que ça va jouer effectivement entre la Grèce, la Finlande, le Danemark. Entre ces trois pays-là, je pense que ça va jouer là.
Et tu le disais, la mise en scène, les costumes, les décors, ça peut totalement redistribuer les cartes.
Prenez l'exemple de DJ Bobo, hein, on peut en parler. Bon, c'est ancien quand même, hein, ça date, mais DJ Bobo, quand il est arrivé à l'Eurovision, et nous avec, on avait l'impression qu'on allait gagner. Il y avait même des responsables de la SSR qui venaient sur place pour voir comment organiser le concours l'année d'après. Des responsables de l'Arena, par exemple, à Genève. Et non, c'était Beau Sobre. C'était des responsables de Beau Sobre pour l'organisation du concours. On arrive à l'Eurovision. Première répétition sur scène, je me souviens toujours la tête de Nicolas Tanner dans la cabine qui se retourne puis qui me fait « C'est quoi ce M ?» Et alors qu'il est plutôt poli. Et en fait, c'était une catastrophe. Le scénic était une catastrophe et on n'a pas passé en finale alors qu'on était favoris. Donc tout est possible. À ce stade, quand même, on peaufine un peu mieux dans chaque pays les prestations. Mais la prestation sur scène, la façon dont c'est interprété. Parce qu'il y a eu des chansons qui étaient favorites, mais tout à coup, ce n'était pas juste sur scène. Et c'est quand même, faut se souvenir que la voix, elle est en live. Avec tout ce que ça représente autour d'éléments et autres. Et même Laureen, dans sa demi-finale, je crois, et même dans la finale, la deuxième fois qu'elle a gagné l'Eurovision, franchement, elle ne chantait pas juste. Donc, c'était limite, quoi. Donc, voilà. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Donc, je pense que ça se joue vraiment le soir même. Et puis, il faut savoir, le jury, c'était hier soir. Hein. Donc, pour la première demi-finale, puisque le jury vote toujours un jour en avance. Et donc, ce soir, c'est la demi-finale, mais c'est le public seulement qui vote. Donc, il faut être bon dans les deux. Les deux soirs, il faut être au top. Si tu n'es pas au top les deux soirs, ce n'est pas possible. Et Nemo, c'est un exemple époustouflant. Nemo, il a toujours été au top. Mais plus on avançait, et John Stiers, c'était la même chose. John Stiers, on a eu juste une angoisse lors de la finale publique. En fait, son décor s'est détaché. Et lui, il était entre les deux. Et donc, à un moment donné, Nicolas me dit... Là, il y a un petit truc bizarre. Il chante pas comme. Et en fait, après, il est venu dans la cabine et il nous a dit : Tu sais que mon décor est en train de se déplacer. Donc, il est en train de se déplacer avec son décor jusqu'à ce qu'un type vienne retenir le décor. Donc, voilà, ça peut se jouer à rien. Et Nemo, il est monté en puissance. Et je pense que c'était juste. Voilà, le nec plus ultra, c'était ça.
Et vous reviendrez avec Valérie dans l'émission. Vous d'abord sur les tops et les flops. Et bien sûr, Zoé Aimé, donc les tops et les flops de l'Eurovision. Tout à l'heure dans Vous d'abord. Merci d'avoir été avec nous.
Et on aura Nicolas Tanner qui sera avec nous aussi et qui donnera un petit peu son avis sur les tops et les flops. Et vous verrez plein de gens intéressants. Il y a un Australien qui veut prendre position aussi, qui est sur place. Ça va être très sympa.
Merci beaucoup Jean-Marc. 7h28.